vivit et non vivit. Il ne vit plus, et pourtant il vit encore. Inscription anonyme, rédigée sur le tombeau de l'empereur Frédéric II.
Les fenêtres de l'histoire, avec Philippe Faureau.
L'empereur Frédéric II de Hohenstaufen est un des personnages les plus fascinants du XIIIe siècle. En effet, c'est un homme qui, par bien des égards, annonce les princes de la Renaissance qui s'intéressent aux arts, à la religion, aux langues, aux textes et, bien sûr, éventuellement à la politique. Frédéric appartient à la dynastie de Souabe. Il est né en 1194. Ses parents et grands-parents sont prestigieux. Son grand-père, c'est l'empereur Frédéric Barberousse, et son père est l'empereur Henri VI. Il est, par sa mère, Constance d'Hauteville, le petit-fils du roi normand de Sicile, Roger II. Ce qui fait qu'il est né dans la pourpre. Il est destiné à accomplir un destin de souverain. À l'âge de 2 ans, il est roi de Sicile, duc d'Épouille et roi d'Allemagne, à 4 ans. Donc, Frédéric est très tôt éduqué dans la manière de gouverner par ses conseillers, par sa mère. Et il va adorer la partie sud de son domaine, parce que non seulement il va être maître du Saint-Empire romain germanique à l'âge de 21 ans, mais il va également régner, et ce fut sans doute sa grande passion, sur la Sicile et sur l'Italie du Sud, c'est-à-dire les Pouilles, la Basilicate, la Campanie, la Calabre. C'est là où il va donner tout son génie, parce que cet homme d'origine allemande va adorer ces rivages méditerranéens et va faire de Palerme une ville qui l'était déjà, mais qui va voir développer un théâtre d'immense culture. D'autre part, il y a chez cet homme une curiosité qui ne manque pas d'étonner encore l'observateur du XXIe siècle. Il va s'intéresser à l'islam. Il va pratiquer dans ses territoires une tolérance religieuse. Il va apprendre le latin, ce qui est traditionnel pour un souverain de son temps, mais également le grec, et beaucoup plus surprenant, l'arabe et l'hébreu. Il a un goût du faste, il a aussi de l'autorité, et des fois la méfiance qu'il peut avoir peut tourner en tyrannie. Par contre, c'est vrai qu'il a aussi été un bâtisseur. Il a beaucoup construit en Sicile, dans les villes de Campanie, et dans les Pouilles. Il est d'ailleurs aussi bien appelé par ses adversaires que par ses admirateurs le Puer Apulier, c'est-à-dire l'enfant des Pouilles. Des fois, c'est moqueur de la part des Guelfes, les partisans du pape qui détestent l'empereur, mais cela peut être aussi une dénotation affectueuse pour les fidèles gibelins, c'est-à-dire les Italiens partisans du pouvoir impérial. Marié dès sa majorité à 14 ans par son tuteur, le pape Innocent III, à une princesse d'Aragon, Constance, eh bien il va être couronné à 21 ans empereur du Saint-Empire. Il est fasciné par la Pax Romana de l'Antiquité. Il admire Auguste et voudrait se vivre d'ailleurs comme un nouvel Auguste en ce XIIIe siècle. Il réhabilite la sculpture antique du temps des Césars. Il fait battre sa monnaie à sa propre effigie, tout comme l'empereur Auguste, et promulgue un ensemble de lois, les constitutions de Melfi, qui sont considérées par les historiens comme l'acte de naissance d'une bureaucratie somme toute moderne. Ainsi, c'est un homme appelé à marquer son temps. Thank you. disais tout à l'heure que Frédéric a été un bâtisseur. Effectivement, on connaît au moins 200 châteaux, palais, résidences, symboles de son pouvoir en Allemagne, en Calabre, en Basilicate, dans les Pouilles, en Sicile. Le plus connu de ces bâtisses, c'est le château Castel del Monte, dans les Pouilles, près d'Andria. C'est une construction fascinante qui se voit de loin depuis la plaine. Elle est octogonale et en fait, les spécialistes de l'architecture et de l'histoire médiévale hésitent. Est-ce un relais de chasse, un élément défensif? Mais il est vrai qu'il n'y a pas de créneau. Est-ce un lieu de résidence? Est-ce un lieu où l'empereur aimait se retirer pour réfléchir et pour apprendre? En fait, le mystère qui entoure Castel del Monte est finalement très significatif de ce qu'a été l'existence et la personnalité de Frédéric. Par son deuxième mariage avec Yolande de Brienne, eh bien, il devient l'héritier du royaume de Jérusalem, ce qui lui vaut le titre symbolique de roi de Jérusalem. Symbolique parce que, depuis 1187, la ville a été reprise par les musulmans. Eh bien, ce que va initier Frédéric, c'est justement un dialogue à ce moment-là avec l'islam. Effectivement, il va rencontrer le sultan et il va négocier pacifiquement la restitution de la ville sainte, ce qu'il va d'ailleurs obtenir. Ce que l'on peut considérer comme un succès n'est guère apprécié dans l'Occident chrétien, car nous sommes dans une période de croisade. Et la papauté ne cesse d'appeler à la croisade, appel d'ailleurs qui vont trouver des échos dans la personnalité de Louis IX, roi de France, qui lui-même partira en croisade à deux reprises. L'empereur Frédéric promet beaucoup au pape, oui, nous partirons, nous nous préparons, ça ne va pas tarder, etc. Mais en fait, il ne partira jamais en croisade, ce qui lui vaudra d'être excommunié pour ne pas avoir honoré à temps sa promesse de prendre la croix. Et de même que un autre élément explique ces litiges politiques avec le Saint-Siège, c'est que le Saint-Siège redoute la puissance de Frédéric qui domine toute l'Italie du Sud. Et donc, il va avoir comme adversaire la papauté. À sa mort, en 1250, certains de ses contemporains diront que la stupor mundi venait de s'éteindre, la stupeur du monde, tellement il avait surpris ses contemporains. Mais son conflit avec l'Église en avait fait un paria. Un paria parce qu'il était finalement mort excommunié. En fait, c'est au XIXe siècle que l'on va retrouver la personnalité de Frédéric. Il est sans doute moins glorifié que ses contemporains, que Saint Louis, que Saint François d'Assise, mais il a été, au XIXe siècle, représenté comme l'annonciateur de la Renaissance des XVe et XVIe siècles. Et il est vrai que cette historiographie allemande a magnifié par la suite Frédéric II, en lui donnant quasiment une dimension mythique, faisant de lui l'archétype du prince de la Renaissance, un homme moderne couronné qui a vécu au Moyen-Âge. Et s'il y a un grand livre concernant Frédéric à relire, c'est celui de l'historien allemand Ernst Kantorowicz, qui a fait une biographie pleine de finesse de cet empereur. Cet empereur qui, effectivement, pour nous Français, est éclipsé sans doute par la personnalité de Louis IX, devenu Saint-Louis, mais qui mérite d'être redécouvert, pour ses aspects novateurs, pour sa curiosité intellectuelle, pour sa liberté d'esprit. On peut dire effectivement, sans crainte de trop se tromper, que Frédéric II de Hohenstaufen a bien été la stupor mundi.